Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Com, l'agence vidéo pas comme les autres, avec Harold, son cofondateur. La vidéo est un format de plus en plus plébiscité par les marques. Avec Harold, on a discuté dans cet épisode du pouvoir de la vidéo sur les émotions, des objectifs marketing liés à l'audiovisuel, de l'approche créative de Com pour créer des vidéos uniques et virales, et de plein d'autres sujets liés à ce format passionnant. Bonne écoute! Salut Harold!
Hello, tu vas bien?
Ça va et toi?
Yes, ça va bien, merci.
Bienvenue dans The Storyline.
Eh bien, merci beaucoup. Hello à tous et à toutes qui nous écoutent.
Je suis sûre que tout le monde est très content d'avoir l'occasion de découvrir un peu ton parcours et de découvrir toute ton expertise sur le format vidéo. Je pense que certains des auditeurs te connaissent déjà et t'ont déjà vu passer sur LinkedIn dans toutes les vidéos de promo que tu fais pour ton agence Com. Non, il y en a qui spamment, toi tu ne spammes pas. Je ne citerai personne. Et du coup, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours ?
Yes, carrément. Et bien, donc, du coup, je m'appelle Harold. Je suis le CEO et cofondateur de l'agence Com, donc une agence vidéo. Je t'expliquerai un petit peu plus en détail ce qu'on fait. Mais avant ça, du coup, moi, j'ai un parcours assez classique. Enfin, j'ai fait une école de commerce en 5 ans, dans lequel j'ai appris pas mal de choses. Et j'ai monté ma première boîte avec Olivier Ramel, le CEO de Kimono, pour ceux et celles qui connaissent, qui est toujours mon meilleur pote, et avec qui on a commencé à entreprendre à l'âge de 23 ou 24 ans. Je ne sais plus exactement quand. Et on a monté une boîte qui s'appelait Hilo, qui était une boisson relaxante, donc un peu l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Donc un peu une tisane moderne. On a lancé ça pendant 1 an et demi, je crois, et ça a bien fonctionné. On a réussi, on a une super opportunité de revente à un groupe portugais, un truc qui est sorti un peu de nulle part et qui m'a fait me dire « Putain, mais attends, je lance une première aventure et direct, ça marche trop bien, j'ai tout craqué, je vais être millionnaire, ça va être trop cool. » Et au final, pas du tout, parce que la suite, c'est pas forcément ça. Du coup, après, j'avais monté une autre boîte qui dans le textile qui s'est cassé la gueule très rapidement. Ensuite, je suis allé dans une start-up dans le recrutement dans lequel j'étais sur la partie commerciale et j'ai monté une boîte dans le recrutement qui s'appelle Tatami, qui est toujours d'actualité. Et il y a bientôt 2 ans, parce qu'on va souffler nos bougies là en septembre, on va avoir 2 ans pour coucher chez Com. Du coup, voilà le parcours résumé rapidement.
Ok, génial. Bah écoute, sacré parcours. C'est marrant parce que généralement, les success stories, elles arrivent plutôt au bout de 3-4 boîtes. Et toi, c'était l'inverse. Enfin non, on te souhaite beaucoup de succès avec Com. Et j'imagine qu'il y a quand même plein de choses positives qui sont sorties de toutes tes expériences avant. Mais,
ouais,
mais c'est plutôt cool d'avoir réussi du premier coup. Pour revenir à Com, qui aujourd'hui, donc tu disais, est une agence de création de création vidéo. Mm-hmm. Comment est-ce que ce projet est sorti de terre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'univers de la prod vidéo?
Eh ben, écoute, déjà, je suis passionné du milieu du cinéma depuis un peu toujours. Je suis un gros cinéphile. J'en consomme un peu à 24 et je voulais à mes heures perdues, je me rappelle, être acteur. Franchement, c'était vraiment un rêve que je mets seulement de côté en ce moment, mais qui très certainement arrivera un jour, peut-être, on sait jamais. Mais donc du coup, voilà, grosse passion du secteur et je m'étais mis dans un mode dans lequel, quand j'avais des problématiques qui subvenaient un peu de mon quotidien ou de ceux de mes proches, c'était de me dire tout simplement si jamais il y avait des choses qui répondaient à ces problématiques, donc assez simple, mais c'était bien de se mettre dans cette position. Et donc plusieurs fois, j'avais fait l'essai en me disant, bah attends, ça c'est chiant, il y a pas de solution, est-ce qu'il serait intéressant de pouvoir proposer une solution. Désolé pour le petit chien qui passe et qui gueule.
C'est les aléas du direct.
Exactement. Je m'étais mis dans ce mode et c'est vrai que vraiment en moins de 2 semaines, j'ai pas mal de potes entrepreneuses qui m'ont dit qu'ils souhaitaient faire de la vidéo parce que ça avait un impact qui était hyper intéressant d'un point de vue business parce que ça avait des avantages à parfois au texte ou à l'audio, même si jamais on y trouve des avantages dans toutes les formes de communication. Mais celui de la vidéo était un nouvel outil, un nouveau moyen de pouvoir vraiment aller chercher des prospects ou autre, ou de faire un peu diffuser son idée ou son projet. Et beaucoup m'ont dit ouais, je kifferais en faire, mais ça coûte une blinde, j'ai regardé, etc. C'est impossible de pouvoir y avoir accès. Et donc du coup, je me suis mis en position de me demander si jamais il y avait la possibilité de pouvoir leur permettre de pouvoir faire de la vidéo. Donc, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, jusqu'à me rendre compte qu'il y avait une brèche sur la vidéo à rendre une vidéo un petit peu plus simple de création. Donc, qui dit plus simple de création dit moins de temps à passer et donc, du coup, une facturation qui est plus légère pour le client. Et donc, je me suis associé rapidement à Florent Vinouze, donc qui est mon associé, le cofondateur de Com, et ma deuxième petite copine aussi, qui vient du milieu de l'audiovisuel et qui fait ça depuis plus de 20 ans. Donc, il y avait vraiment cette notion ultra technique et précise de l'audiovisuel. Et donc, rapidement, on s'est dit, OK, on va proposer une offre hyper abordable, donc à 1 000 €, ce qui est relativement, enfin même très très peu cher dans le secteur de la vidéo quand tu fais une vidéo vraiment vraiment pro. Et la contrepartie d'un budget accessible, c'était de faire intervenir en fait nos clients dans la conception de leur vidéo. Donc typiquement, je te donne un exemple très simple. Si demain tu dois mettre des figurants dans une vidéo, ça peut te coûter tout de suite des billets. Si tu dois louer un lieu, pareil. Et c'était de leur dire, les gars, ok, essayez de savoir si vous n'avez pas des amis qui peuvent faire partie de la vidéo et que vous n'êtes pas forcément obligé de payer. Est-ce que plutôt que d'aller louer un lieu, vous n'avez pas votre appart, vous n'avez pas des espaces de coworking dans lesquels vous pouvez aller tourner. Donc c'était vraiment trouver les moyens de pouvoir mettre la main à la pâte pour pouvoir réduire les coûts in fine et avoir un contenu donc très pro et très qualitatif, parce que en termes de technique, nous on était là avec du bon matos, avec un bon œil, hyper intéressant. Et pour eux, c'était plus de temps à passer, mais une enveloppe budgétaire un petit peu moins élevée que si jamais ils nous avaient totalement tout délaissé. Et surtout le paramètre aussi humour, qui était un peu le créneau sur lequel on a commencé à lancer Com. Et qui est toujours le cas, même si c'est plus ce qu'on fait exclusivement, mais parce qu'on part vraiment du principe qu'une belle vidéo, donc canon, c'est top, mais qu'il faut pouvoir avoir une vidéo qui soit vue. On était toujours dans le souci de se dire que nos clients n'avaient pas forcément énormément de budget, donc n'avaient pas forcément de budget à allouer, tu vois, sur la partie campagne d'acquisition, d'ads, donc c'est vraiment du payant, et de se dire comment on fait pour pouvoir que la vidéo soit vue. Pour ça, faut que ce soit un truc relativement décalé, parce que les gens attendent ça et les gens aiment ça, aiment se divertir. Et donc, c'est vraiment l'orientation qu'on a donnée à Com et qui a bien fonctionné sur dès les premières semaines, en toute transparence, avec une vidéo de lancement assez marrante qui justement expliquait tous ces paramètres. Et écoute, voilà un peu le lancement et la naissance de Com.
Ouh, sacré programme. Ah, c'est génial. Ouais, j'ai plein de questions du coup qui me viennent. Je vais essayer de m'en souvenir de toutes parce qu'elles sont venues graduellement. Ce que je trouve trop chouette déjà, c'est de dire qu'en fait, t'es vraiment pour cette boîte partie d'un besoin, d'un pain point qui était clairement exprimé par les gens qui t'entouraient. Donc encore une fois, une belle illustration. Je pense que les trois quarts de mes invités, en tout cas ceux qui ont entrepris et qui ont lancé un projet, il y a toujours cette notion de mes potes avaient ce problème-là ou mes clients n'arrivaient pas à faire ceci ou cela. Et c'est génial, ça se retrouve systématiquement. Peut-être première question, parce que je trouve ça marrant que tu me dises que pour réduire le budget et pour maintenir un ticket de 1 000 €. Peut-être, c'est cette, la toute première question, c'est quand tu as dit 1 000 € la vidéo, je me suis demandé, ça coûte combien une vidéo en général pour les gens qui ne savent pas, qui ont peut-être envie de se lancer pour leur marque ou pour eux-mêmes, etc., hors de Com.
Venez chez Com, c'est mieux. Mais c'est une question qui est super, super compliquée à répondre parce que, comme tout, t'imagines bien, tu vas dans un resto, combien ça coûte un burger? Bon, j'avoue que tu peux donner un ordre d'idée, mais ça dépend ce que tu mets dedans, de la manière dont on te le sert, etc. Donc, c'est hyper, hyper varié. Donc, vraiment, pour le coup, ça peut être 1 000 € comme 100 000. Et c'est vraiment, tu vois, les projets sur lesquels on intervient. Maintenant, en moyenne, si on parle d'un lancement de projet, on a envie de prendre la parole ou de faire quelque chose de relativement sexy avec un prix abordable, à partir de 1 000 €, tu peux commencer à faire de la vidéo. Ce qu'on recommande, c'est plutôt avoir un panier aux alentours de 2 000-3 000 € pour un lancement, parce que ça permet d'aller chercher un petit peu plus de professionnalisme, parce qu'on l'est toujours, que ce soit à 1 000 ou à 3 000. Mais c'est juste que d'un point de vue qualité, tu passes vraiment une step. C'est comme quand tu veux louer un appart et que tu as le budget un peu relou, genre 800 €, etc., qui te permet d'être toujours un peu au milieu de toutes les recherches. Quand tu arrives à mettre un tout petit peu plus, ça te permet de faire la différence. Et c'est un peu la même chose avec la vidéo. Mais donc, du coup, à partir de 2-3 000 €, t'as une vidéo qui est vraiment, vraiment quali et qui fait vraiment le taf de alors après, ça dépend de l'objectif de la vidéo, si c'est, on aura l'occasion d'en parler, mais du branding, de la notoriété, est-ce que c'est de l'acquisition, donc c'est-à-dire aller chercher les noms des prospects. Donc, ça va dépendre de pas mal de paramètres, mais voilà. Aux alentours de 2-3 000, tu commences à avoir vraiment un contenu très, très sympa.
Donc un petit budget en plus pour une grosse expérience, ça me fait penser à toi du coup, c'est l'histoire de loyer, moi c'est se payer la première classe dans le train avec la SNCF quand ça coûte 4-5 euros de plus.
Ouais, exactement,
c'est un peu toujours un truc un très peu, bien, ouais, le petit kiff.
Grave.
Psychologique mais efficace, ok, génial. Mais alors peut-être question un peu bête, mais pour les non-initiés comme moi qui suis plutôt sur l'écrit, et l'audio. Quels sont les avantages du format vidéo ? Parce qu'on en a parlé énormément, mais tout le monde sait que c'est un format qui est hyper chronophage, qui demande énormément d'efforts. Si tu ne fais pas de la qualité, c'est très difficile de te démarquer. Une fois que tu as pris tout ça en compte, quels sont les avantages de la vidéo par rapport à d'autres formats ? Et dans quel cas est-ce que quand tu es une marque ou un créateur, tu dois l'utiliser ?
Bah, je pense qu'il y a énormément de raisons sur lesquelles je conseillerais d'aller sur la vidéo. Je pense déjà que c'est pas de la vidéo ou de l'écrit, tu vois, ça peut être totalement complémentaire. Je pense qu'il faut comme la bourse, faut diversifier un peu les choses que tu fais, les formats sur lesquels tu communiques. Maintenant, c'est vrai que quand t'as un contenu qui est assez, enfin, c'est pareil, ça dépend des réseaux, etc. Mais bon, bref, si jamais demain, tu vois, t'es sur LinkedIn, t'as énormément de contenus qui sont sous forme d'images et d'écrits. T'en as un petit peu moins en vidéo. Donc, tout de suite, ça te capte l'attention. Ça capte l'attention des yeux. Tu vois, on en discutait un petit peu, mais t'as vraiment les sujets d'endorphine, etc. Où t'as de dopamine et autres. Je lis les mots qu'on s'était mis en avant. Mais qui capte l'attention, qui capte davantage l'attention. Et après, il faut bien avoir le déterminant de qui va regarder la vidéo aussi. Parce que, tu vois, il y a des fois, moi, on recommande, t'as des clients qui viennent nous voir en nous disant, bah, j'aimerais faire de la vidéo pour tel ou tel objectif. Et on leur dit, ouais, mais là, on vous recommande fortement de faire plutôt de la photo, et ou de faire du texte, vraiment de bosser le copywriting, etc. Donc, soit c'est en complémentarité, soit c'est vraiment s'orienter sur un autre format parce que ça fonctionne mieux en termes d'objectifs. Il faut vraiment construire sa communication de manière générale. Donc, encore une fois, écrit, image ou vidéo, et vraiment à partir de l'objectif. Bon, faut pas se dire, OK, je fais de la vidéo pour avoir mon objectif. C'est plutôt, bah, quel est mon objectif en fonction de ça? Quel est le moyen le plus en adéquation avec l'objectif que j'ai envie d'atteindre, et quel est donc le moyen le plus intéressant. Donc voilà, donc pour répondre à ta question de manière plus concrète, la vidéo, c'est un très bon complément. Ça permet de faire passer peut-être un petit peu plus d'émotion, un petit peu plus de vivant qu'une image ou un texte, où on peut avoir on peut percevoir, tu vois, typiquement de l'écrit, tu sais pas quelle est la tonalité, sauf si tu l'as très bien bossé, mais quelle est la tonalité qu'a envie de donner dans son texte l'auteur. Et alors que dans la vidéo, bah vraiment, t'as tous les paramètres qui font que tu gobes un peu l'information dans le bon sens du terme, et que ça laisse un petit peu moins de place à l'interprétation. Du coup, c'est un paramètre et un outil qui peut être extrêmement, extrêmement puissant. Et je t'en parlerai peut-être après, mais et je peux encore le dire jusqu'en septembre, parce qu'après ça va changer en septembre. Mais tu vois, typiquement, comme on va avoir donc 2 ans, on n'a toujours pas de commercial au sein de l'entreprise. Donc c'est vrai que je le prône franchement et au fort, parce que c'est un peu une enfin, je suis super fier de ça,
c'est
et ça montre aussi,
en
tu vois, le modèle.
Ans.
Ouais, ouais. Ouais, et de se dire, bah, qu'au final, en communiquant correctement et par le biais de la vidéo, bah, t'as des gens qui sont intéressés, tu génères beaucoup de demandes entrantes, et donc t'es pas forcément exclusivement besoin d'aller chercher ton client en externe. Donc je pense que c'est un super, super complément.
Ouais, c'est l'avantage des secteurs sur lesquels la plupart d'entre nous, que ce soit toi, moi ou beaucoup des auditeurs, sont positionnés. C'est les métiers du marketing. Et du coup, quand tu pratiques ce que tu prêches, entre guillemets, et que tu produis du contenu pour démontrer la pertinence de ton argument et de ce que tu préconises, bah, ça va convaincre les gens et ça va leur donner envie de bosser avec toi en plus. Parce que tu le disais justement, ça résonne énormément. La vidéo, c'est peut-être un bon moyen d'incarner une marque, une identité, un univers de manière un peu plus efficace que le texte, comme tu disais. Peut-être encore plus un peu que l'audio, même si l'audio, c'est déjà pas mal. Mais ça me donne envie de rebondir sur ce que tu disais au début de la présentation de Com, qui était que pour maintenir un budget un petit peu plus bas que les standards du marché, vous proposez aux gens d'aller dans leur bureau, chez eux, de faire intervenir des potes ou eux-mêmes. Au final, c'est un peu double bénéf parce que ça permet aussi d'incarner la marque et de la rendre un peu plus humaine directement et de donner un côté un peu sympa, authentique, qui va pouvoir séduire peut-être plus facilement les prospects.
Ouais, ça à bien garder en tête que ça peut aussi être à double tranchant, dans le sens où, en fonction du format sur lequel tu veux communiquer, donc on part de la vidéo, mais on peut se dire, bah, puisque c'est plutôt, je sais pas, un format un peu interview et ou vraiment quelque chose d'humoristique un peu scénarisé, bah tu vois, je recommande fortement pour le coup, quand tu fais une interview, parce que tu es très transparent dans la manière dans ce que tu vas dire, ça c'est vachement vachement spontané et ça fonctionne bien. Autant quand tu as besoin de scénariser, donc d'apprendre un texte et autres, c'est un vrai, vrai métier. Et c'est vrai qu'on a déjà fait le test avec certaines personnes qui ont quand même souhaité prendre la parole face cam avec ce bras un peu humoristique, en apprenant du texte et autres. Et au final, le format, la forme était top parce que qualitativement, on sait bien faire le boulot. Maintenant, on peut pas inventer et donner la possibilité à un client d'être un super bon acteur ou actrice. Donc, du coup, c'est vrai que parfois, ça collait un peu moins. Donc, on se permet aussi de dire parfois, voilà, si jamais t'as pas le budget pour un acteur ou une actrice, viens, on part sur un format interview, viens, on part sur un autre format. Mais là, c'est trop, ça peut être à double tranchant. Donc, faut aussi faire gaffe à ça et être très, très pragmatique sur le fait de dire est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas de prendre la parole face cam sur un truc très scénarisé ou pas. Voilà, c'est juste la petite parenthèse parce que c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup demandé et qu'il y a cette partie un peu éducative qu'on doit donner à nos prospects et à nos clients forcément. Mais c'est de se dire qu'il faut faire, c'est pas le paramètre monétaire de se dire, ouais, mais j'ai pas l'argent pour, c'est plutôt que de se dire, donc du coup, je suis obligé de prendre la parole face cam et de jouer l'acteur, plutôt de se dire, quel est l'autre format sur lequel on pourrait aller qui correspondrait bien à mes objectifs et à mon budget, quoi.
Ouais, parce que si on n'est pas 100% à l'aise, autant ne pas faire un truc, un contenu qui va être en fait malaisant pour les gens qui le regardent. Ouais, j'imagine qu'en effet, ça dessert ton message plus qu'autre chose. Mm-hmm. Ok. Mais du coup, quoi qu'il en soit, ça permet quand même, tu le disais, de servir un objectif qui est de lier un lien un peu plus émotionnel, peut-être, avec les gens qui regardent la vidéo. Et tu as mentionné tout ce que j'aime bien, les endorphines, oxytocine, dopamine. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous allez jusque-là, mais en gros, chacune de ces hormones, enfin, c'est pas vraiment des hormones, c'est des neurotransmetteurs qui sont activés en fonction de certains messages, justement, et de certaines idées, de certaines images, etc. Et qui vont, en fait, déclencher différentes émotions chez la personne qui entend le message ou qui regarde l'image. Et donc, typiquement, je vais encore dire des bêtises, endorphines, je crois que c'est les hormones de la détente, enfin de la relaxation. Oxytocine, c'est l'amour, c'est quand on a un lien très empathique avec la personne qui délivre son message. Endorphine, c'est plutôt tout ce qui est humour, c'est un peu la même chose que ce qu'on ressent après avoir fait une grosse session de sport, et sans les effets bénéfiques sur ton booty, malheureusement. Et la dopamine, c'est plutôt tout ce qui est lié à la récompense, et donc du coup c'est plutôt associé à des stratégies de création de suspense, d'anticipation dans des vidéos, donc plus de l'action et tout. Vous, est-ce que vous avez un peu un playbook du storytelling? Est-ce que vous avez des schémas narratifs que vous utilisez dans les vidéos que vous créez pour vos clients?
Alors oui, mais pas pour les raisons que tu viens d'énumérer et qui est hyper intéressant. Non, mais clairement, tu vois, vraiment un petit peu rentrer un peu plus en détail d'un point de vue scientifique, vraiment sur le rendu un peu émotionnel que ça peut engendrer. Franchement, ouais. Non. Ce serait mentir que de dire que oui. Maintenant, c'est un sujet sur lequel on pourrait intervenir. C'est vrai que de moins en moins, on en parlait un petit peu en off avant, mais de moins en moins, on a la nécessité de vraiment éduquer nos clients, nos prospects sur le fait de faire de la vidéo, parce que c'est un petit peu rentré un peu plus dans les mœurs, même 2 ans après, tu vois, je m'en suis rendu compte, de dire, ok, avant, j'avais vraiment ces 5-10 minutes où j'expliquais tout l'avantage de la vidéo, ce que je continue à faire, mais je le fais différemment parce que on sait vraiment maintenant que ça a un impact qui est hyper important ou intéressant. Alors là où j'éduque, c'est peut-être plus sur la partie sur le volume d'impact que ça peut avoir, sur un peu plus de maîtrise chiffrée, mais un petit peu moins sur le côté émotif, de vraiment se dire voilà, il faut que tu passes à la vidéo parce que ça permet de créer de la dopamine ou de l'endorphine, etc. Par contre, sur la partie création de scénarios, ça oui, on réfléchit, on pense vraiment nos scénarios pour que ça réponde encore une fois à des objectifs. Et typiquement, tu vois, un bon exemple, c'est quand tu vas faire du contenu vraiment très orienté acquisition, donc encore une fois, c'est donner envie à des prospects. Là, tu parles d'un principe qui est que les gens bouffent de l'info H24, donc tout type de contenu, et que tu dois faire la div dans ce flux énorme d'informations que encore une fois que mangent les prospects. Et c'est de se dire comment tu fais la différence. Et pour ça, c'est de bien travailler tes premières secondes, donc ce qu'on appelle le fameux scroll stopper. Donc c'est s'arrêter, donc scroll c'est descendre, scroll down là, et stopper c'est s'arrêter. Et c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'une personne va s'arrêter sur ta publication et pas sur celle d'un autre. Et donc ça passe par bien travailler les 3 premières secondes, je dirais même les 2 premières secondes. Et donc là, souvent, l'humour fait la diff. Mais c'est de se dire comment est-ce que tu as envie de donner envie à ton prospect de regarder. Et on essaie, tu vois, de faire des espèces de petits KPI de nos vidéos pour savoir quand elles fonctionnent très bien et celles qui fonctionnent un peu moins, de réajuster pour que les vidéos soient de plus en plus performantes d'un point de vue objectivité. Et on se rend compte que quand tu travailles bien tes 3 premières secondes et que un prospect regarde entre 3 et 5 secondes d'une vidéo, on se rend compte qu'il regarde quasiment la totalité de la suite de la vidéo. Donc, ce qui montre bien que ton boulot est fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le reste de ta vidéo, mais le plus important avant tout, c'est de travailler le tout début qui donne envie de rester. Et si on rebondit sur l'endorphine, la dopamine, etc., c'est assez intéressant parce que tu vois, on se rend compte que ce qui marche parfois très bien, c'est une personne qui est émue, qui sourit, qui rigole ou qui pleure. Donc, c'est vraiment le côté un peu émotif. Et ça, c'est des... Voilà, on a un peu listé le top 10 des scroll stoppers qui fonctionnent bien, à adapter en fonction, bien sûr, de nos clients et de leur secteur. Mais tu as vraiment le côté très humain, très, très émotif qui fait que ça fonctionne bien. Mais donc voilà, faut vraiment bien, bien bosser ces premières secondes qui sont quasiment déterminantes pour la suite du contenu.
Bah, c'est rigolo, c'est un peu la même bonne pratique. Au final, quand tu vas designer un site web, c'est recommandé de mettre un humain sur la landing parce que les gens vont avoir tendance à s'identifier à des visages humains plus qu'à des illustrations, des photos d'objets, etc. etc. Ouais. Mais vraiment trop cool cette approche de lister les scroll stoppers. Est-ce que c'est secret, c'est votre secret sauce ou on a le droit de savoir un peu c'est quoi votre top 10?
Bah, en fait, dans le top 10, c'est vraiment en fonction de pas mal de paramètres, encore une fois, parce que la partie budgétaire, la partie cible, parce que si jamais tu t'adresses à des millennials ou à des personnes un peu plus seniors, c'est pas du tout la même approche. Donc, c'est un top 10 qui est vraiment très adapté en fonction de secteur. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés en fonction de leur secteur, n'hésitez pas à nous poser des questions. Franchement, je suis archi actif, tu l'as dit, je spam beaucoup sur LinkedIn. Je prends le temps, franchement, de répondre à 90% des personnes qui ont envie parfois de discuter de com, de vidéos ou d'autres choses. Donc, pour les personnes que ça peut intéresser, de bosser des scroll stoppers, qui n'hésitent pas à me contacter, puis on en parle comme ça. Ce sera peut-être plus personnalisé que de shooter un truc un peu one shot comme ça, qui sera peut-être un peu trop générique et pas forcément suffisamment adapté à plein d'autres paramètres, quoi.
C'est hyper sympa. Et j'ai pas dit que tu spammais, hein. Au contraire,
je
dis
non, mais je me l'auto. Ouais, mais j'en suis parfaitement conscient.
mais c'est vraiment, on a tous peur maintenant. Il y a eu tellement de trolls sur LinkedIn et en même temps, c'est vrai que tout le monde y est tellement allé de tous ces posts que j'ai l'impression que c'est un peu une zone de tension LinkedIn ces derniers temps. On n'ose plus trop y aller. En même temps, il faut poster et tu sais pas trop. T'as pas envie d'être trop visible, mais en même temps. T'as besoin
il faut l'être quand même. Ouais. Et surtout que LinkedIn, franchement, ça reste un réseau social pour celles et ceux qui pensent pas forcément à ce réseau. C'est d'une puissance vraiment énormissime. Et tu vois, quasiment dangereuse pour Com parce qu'on est quasiment dépendant de LinkedIn. Alors, plus forcément maintenant à 2 ans parce qu'on a beaucoup de recommandations, on a beaucoup de rétention client et autres, ce qui est top. Mais vraiment, la grande majorité des prospects qu'on a eu et qui sont transformés en clients, c'était par le biais de LinkedIn. Et comme tout, quand t'es dépendant de quelque chose de manière générale, mais encore plus d'un réseau social quand tu parles business, ça peut être dangereux. Donc c'est vrai qu'on on a vachement réparti nos efforts maintenant sur les autres canaux comme Insta, YouTube, etc. Mais c'est hyper important, je pense, d'aller se mettre sur LinkedIn. Alors ça dépend de la cible, B2C, B2B, le secteur et autres. Mais franchement, il y a vraiment à faire encore. Et puis je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, et moi c'est franchement pareil, je me dis parfois putain maintenant est-ce que j'en dis pas trop ou trop ou pas assez, etc. Mais en vrai, et on se rend compte, hein, nos posts fonctionnent de mieux en mieux, c'est vraiment, on poste régulièrement parce que l'algo aime ça et que du coup c'est cool, mais on travaille encore plus le fond de ce qu'on a envie de poster pour que ce soit bien dans la veine de notre stratégie de communication et avec une forme qui est vraiment, vraiment relativement quali. Donc tu vois, avant on postait quasiment 2 fois par jour du contenu qui était très cool. Maintenant, on poste 1 fois par jour, mais du contenu qui est carrément canon, je trouve. Et donc, du coup, ce qui fait que ça fonctionne bien. Mais voilà, franchement, go sur LinkedIn, parce qu'il y a des gros, gros sujets encore, vraiment.
Je vois pas tout passer, mais donc c'est du contenu vidéo, hein. On est d'accord.
Et pas que, parce que tu vois, LinkedIn, t'as parfois, moi j'ai fait des posts, je me suis mis à faire du fameux copywriting, donc vraiment du texte qui donne envie, pour tester. Et puis tu te rends compte que l'impact, il est incroyable aussi. Les photos, pareil, ça pète tous les scores. Et parfois, des vidéos, ça passe à la trappe, vraiment. Donc, comme quoi, c'est pas, encore une fois, le format vidéo qui fait toute la différence. Mais c'est vrai qu'en grande majorité, on communique avec la vidéo et ça marche bien. Mais il faut diversifier la manière dont.
Oui, parce que j'allais te demander, mais en tout cas, je note la bonne pratique par rapport à LinkedIn qui est d'avoir recruté, entre guillemets, vos premiers clients, votre première base de clients. Et d'avoir ensuite su vous diversifier, parce que c'est vrai que c'est dangereux à long terme de rester dépendant que d'un canal. Mais c'est important au début de te concentrer sur, je pense, un espace sur lequel construire ta légitimité. Enfin, je te disais, LinkedIn n'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour la vidéo. Moi, j'avais une petite question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais j'ai l'impression que quand je publie des vidéos sur LinkedIn, j'ai moins de reach que quand je fais des posts. Et ouais. Je ne sais pas si du coup l'algo aime moins les vidéos ou s'il y a un autre sujet. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai mis une vidéo, je me suis dit, après peut-être que mes vidéos étaient nulles, hein. C'est aussi une possibilité. Mais j'ai plutôt eu l'impression de faire un flop. Je ne l'ai pas fait beaucoup de fois, j'ai dû le faire deux fois.
Ouais.
Mais j'avais eu l'impression que les gens disaient qu'il y avait un peu moins de reach sur la vidéo que sur certains posts. Pourtant, la vidéo est un peu par nature un potentiel viral.
Ouais, bah écoute, ouais, carrément. Je pense qu'encore une fois, t'as pas de. C'est pas parce que tu fais la vidéo forcément que ça va tout péter. Peut-être qu'effectivement, en vrai, en termes de construction de vidéo, c'était peut-être pas le plus adapté. Peut-être que parfois, et ça arrive aussi, bah, l'algo l'a pas pris parce que tu l'as mis à une heure où il n'y avait pas forcément de monde, où il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. Parce qu'en fait, t'as quand même tellement de paramètres au niveau donc, de l'algorithme de chacun des réseaux, et notamment sur LinkedIn, qui rend la chose aussi un peu complexe et qu'il faut comprendre, je pense, pour aller alimenter du contenu qui ne déroge pas ce que toi t'as envie de mettre, mais de rentrer un peu dans les critères de cet algorithme. Et tu vois, typiquement, on l'a quand même pas mal bossé. Et c'est vrai qu'on a peu fait de flop en vidéo, alors que parfois, c'est des vidéos qui ne sont pas forcément, tu vois, incroyablissimes. Hein, c'est vraiment quelque chose de très pragmatique. Mais peut-être qu'il y a ça, ou peut-être qu'effectivement, et c'est ce que je te disais aussi, et je suis assez raccord, tu as parfois des photos qui font 10 fois la portée de ce qu'a fait une vidéo. Maintenant, l'objectif, il n'est pas que de faire une super perf sur LinkedIn. La vidéo, c'est multi-usage. Ça te permet aussi de le mettre sur ton site internet, de pouvoir l'envoyer à tes prospects, de faire du branding, de la notoriété. Donc, vraiment, de travailler un peu plein d'autres choses. Mais ouais. Malheureusement et en même temps heureusement, personne ne peut craquer de manière totalement, ne peut craquer l'algorithme LinkedIn en se disant ok j'ai tout compris, ça va à chaque fois perf et tout exploser. Franchement, si c'était ça, c'était relou, ce serait relou parce que ce serait toujours les mêmes qui seraient en avant. Mais je pense qu'il faut que tu t'itères aussi un petit peu parce que peut-être que la troisième vidéo, c'est celle qui ferait la diff et qui casserait tout. Peut-être que encore une fois la forme et le format que t'as mis, peut-être que t'as peut-être pas, je sais pas. Peut-être diffusé encore une fois, peut-être pas à la bonne heure, ou peut-être que le format en question n'était pas forcément le mieux travaillé. Donc j'irai regarder, je vais aller faire un petit audit de ton profil, comme ça, je vais aller regarder, je te ferai mes retours. Mais après, ce serait mentir que de dire « Ah non, pas du tout, la vidéo à 100%, tu vas faire 1 milliard de fois le nombre de vues par rapport à une photo. » Franchement, ce serait vraiment mentir. Ça dépend de pas mal de paramètres. Et puis par contre, il n'y a que du bon à le faire. Et puis, je suis sûr et certain que la même vidéo qui a peut-être fait 1000 vues quand tu l'as postée, si tu la repostes à un autre moment, en fin de journée, dans 2 semaines, ou plutôt en septembre, ça se trouve, ça le fera 10 000 vues. Donc voilà, ça dépend aussi, encore une fois, de parfois, ça prend, parfois, ça prend pas. Et puis, pourtant, tu peux avoir exactement le même contenu. Ça, c'est aussi un peu le fruit du hasard des réseaux sociaux. Donc voilà.
Complètement. D'ailleurs, ça me fait une transition parfaite sur une question que j'avais envie de te poser parce que justement, cette dernière vidéo que j'ai postée, elle n'était pas de moi, c'était une vidéo que j'avais dénichée sur les internets qui parlait en fait d'une agence russe de communication qui avait pendant, je crois, 2 ans, fait bosser une intelligence artificielle pour des clients sur la création d'identité visuelle. En gros, les clients étaient... Bon, je pense qu'il y avait un mec qui était un petit peu derrière en admin, mais c'était une intelligence artificielle qui interagissait avec les clients, qui prenait le brief et qui créait des designs visuels pour ses clients. Et du coup, les designs de cette intelligence artificielle avaient été... ils étaient affichés dans des chaînes de resto un peu partout dans le pays. Et au bout de 2 ans, les mecs de l'agence ont juste dit « Bah, coucou, en fait, c'était une IA, Léonid Goncharov. En fait, c'est pas un mec, c'est un robot. » Et du coup, ça a ouvert tout un débat sur les machines et la créativité. Et je me demandais, dans la vidéo, est-ce que tu penses que... parce qu'il me semble que Watson... l'intelligence artificielle d'IBM, on lui avait demandé de créer un teaser d'un film d'horreur il y a quelques années. Ouais. Et il l'avait fait de manière assez qualitative. C'était un teaser qui était vraiment digne, je pense, de ce que tu vois dans les cinémas. Je me demandais si vous envisagez d'utiliser l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a de la robotisation qui arrive dans tout ce qui est vidéo, ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester assez créatif, assez humain?
Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu viens de me dire, et puis c'est vrai que c'est un sujet sur lequel forcément on s'est un peu penché parce que tout le côté tech, IA, etc., c'est un peu tendance d'actu et que ça peut permettre d'aller chercher la fameuse scalabilité qui est à la recherche de tous et toutes. Mais je pense vraiment que tu es quand même dans un domaine dans lequel le jus de cerveau va être très compliqué à remplacer parce que la partie créativité où tu as plein de paramètres, je pense que c'est encore, en tout cas pour le moment, très compliqué de pouvoir automatiser. Je pense par contre que tu as plein d'outils, j'en ai en tête, mais qui te permettent de faire du contenu vidéo de manière automatisée et à l'échelle de ce que ça peut te coûter est vraiment top et permet de faire le taf. Maintenant, 100% automatiser tout de A à Z, j'ai un peu du mal à y croire pour le moment. Et franchement, si c'est le cas demain, bah, faudra qu'on arrive à se réinventer aussi. Hein. C'est, ça fait partie du game. Ouais. Mais c'est important. Et tu vois, typiquement, la création du teaser et du trailer, j'imagine que c'est t'as un espèce de brief. Que l'algorithme comprend ce brief, comprend les phrases, les bribes de phrases, et se dit ok, je vais aller chercher des images qui correspondent à ça. Donc en fait, c'est des images qui ont déjà été tournées, donc avec super quali et qui permettent de pouvoir. Donc voilà, après t'as d'autres paramètres derrière, c'est que ces footage qui sont parfois accessibles à tous, bah, c'est payant, ça a un certain coût. Que je pense que si demain bah, tout le monde se sert de ça, bah, du coup les vidéos vont aussi un petit peu se ressembler parce que bah, tu vas aller chercher des footage accessibles un peu à toutes et à tous.
Ouais.
De ouf. Donc c'est un peu comme tout, t'as toujours des moments de tendance où t'as un moment où ça va être novateur potentiellement. Ça va faire un bruit de dingue, mais au final, bah, comme un peu tout, bah, ça va se modernise. Enfin, ça se rendra un petit peu, ça sera un peu normatisé, pardon. Et donc, du coup, tu passeras à autre chose. Après, c'est toute la vie d'un business et de tout. Hein. C'est que le marché évolue, bouge et qu'il faut s'adapter. Mais pour le moment, l'IA, on y pense. Pour le moment, il n'y a pas de sujet A. On n'a pas envie d'y aller juste pour y aller. Par contre, de bien s'outiller en interne, ça, on l'a fait. Donc, c'est aussi un moyen dans un secteur très créatif, bah, d'arriver à bien processer tout de manière militaire. Mmh. Pour le coup, c'est ce qu'on a fait et ça, c'est top parce que, à défaut pour l'instant de pouvoir externaliser de l'IA, enfin voilà, de le faire de manière externalisée, de responsabiliser par exemple typiquement nos clients qui pourraient créer leur propre contenu, bah, c'est nous en interne comment on fait pour passer une heure plutôt que 10 heures sur un projet qui bouge pas le rendu de la qualité, qui permet d'avoir des prix plus accessibles pour nos clients et nous de faire une renta qui est encore plus importante. Et c'est là-dessus pour l'instant qu'on essaie de craquer le moindre millimètre possible. Et ce qu'on a bien fait quand je fais un peu le rétro-planning, enfin le rétroscope de ce qu'on a fait en 2 ans, je vraiment sur un même projet, je pense qu'on passe quasiment 6 fois moins de temps et le rendu est 2 fois plus qualitatif. Donc c'est là-dessus qu'on intensifie nos efforts pour le moment.
C'est passionnant ce que tu me racontais sur l'homogénéisation. Je suis d'accord, c'est un truc je pense qui touche un peu tous les secteurs créatifs. Et justement, t'as un peu touché dans le mille parce que cette intelligence artificielle, Watson, le truc d'IBM, justement, il avait analysé, je crois, 1 millier de films d'horreur. C'est un film d'horreur pour lequel il devait faire un trailer ou un teaser. Je ne sais pas quel est le bon mot. Et du coup, il est allé analyser, 1 000 films d'horreur et 1 000 teasers de films d'horreur qui avaient déjà été produits. Et du coup, il en a tiré des conclusions. Donc du coup, il s'est dit, bon, bah, pour celui que moi, je vais mettre en valeur, je vais mettre une musique un petit peu angoissante, une ouverture de scène. Tu passes de l'obscurité à la lumière. Tout d'un coup, tu apparais, une forme un peu menaçante apparaît. Et donc du coup, c'est parce qu'il avait vu ça apparaître dans 100 films sur les 10 dernières années et qu'il a simplement, entre guillemets, répéter les recettes qui marchent. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on peut reprocher à l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas cette notion de jus de cerveau, comme tu disais, et ce côté créatif et capacité à inventer des choses nouvelles. Mmh. Mais moi, j'ai un peu l'impression que chez Com, du coup, c'est un peu à la Mad Men. Vous êtes là dans votre bureau, vous imaginez des scénarios de ouf. Comment ça se passe en réalité quand il y a un client qui arrive avec un brief et qui a un message à faire passer, une identité, un objectif? Comment tu créer une vidéo, c'est quoi les étapes concrètement?
Ouais, tu veux un petit peu rester sur les étapes un peu côté client et où vraiment nous en interne comment est-ce qu'on gère tout ça?
Bah, je suis un peu curieuse des deux en fait parce que du coup on a qu'à se dire si un de nos auditeurs a envie de lancer sa vidéo, comment et d'y réfléchir de son côté à un script, etc., comment il peut s'y mettre?
Ok, bah du coup, la toute première chose qu'on fait et qu'on demande déjà, c'est de répondre à un petit questionnaire qui fait office de brief, donc qui permet en fait d'avoir toute la matière nous permettant de pouvoir commencer à travailler sur un projet vidéo. Et donc typiquement, dans les questions, c'est de nous pitcher déjà forcément ce que fait ta boîte, pourquoi t'as besoin de cette vidéo, donc vraiment la partie objectivité, donc est-ce que c'est encore une fois de l'acquisition, du branding, de la notoriété, etc. Ensuite, quelle est la cible? Savoir, voilà, encore une fois, si c'est des personnes de 16-18 ans ou 45-50, parce que l'approche est bien différente, quelle est à peu près la tonalité que tu as envie de donner, est-ce que tu as envie d'un truc assez corpo, inspirant, sérieux, humoristique ou pas. Donc ça, encore une fois, c'est pas parce que notre prospect ou notre client répond à ça que c'est gravé dans le marbre, c'est juste que ça nous permet de voir un petit peu jusqu'où il a une idée de ce qu'il souhaite. T'as forcément la partie aussi diffusion, donc est-ce que ça va être sur LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube, etc. Et le budget, parce que le budget va nous permettre de pouvoir aussi savoir jusqu'où on peut penser un scénario, parce qu'avec 5 000, tu fais pas la même chose qu'avec 50 000, forcément. Donc du coup, ça permet aussi de donner un peu les paramètres et les paramètres sur lesquels peuvent commencer à bosser nos créas. Donc une fois que tu as tout ça, donc il y a ce petit typeform qui prend environ 10-15 minutes pour le côté client, nous on réceptionne ce brief. Donc tu as la partie, c'est moi qui m'en occupe, qui fait partie de la du pôle DIRCLI, on va dire, donc qui traite un peu la demande entrante. Je regarde le tout, je fais un petit call d'éducation avec le client. Donc là, on repasse un peu en détail le typeform, je pose certaines questions en fonction des réponses qu'il a pu lui donner. Et puis, on commence à, donc je récupère toutes les informations qui nous permettent de commencer à réfléchir à un scénario. Donc le scénario avec tous les paramètres dont je t'ai parlé. Ensuite, on envoie ce fameux scénario donc avec un mood board. Donc le mood board, c'est typiquement, si je te dis, voilà, il y a une personne qui va se lever, qui va sortir de chez lui, ben on va mettre une image qui représente approximativement ce qu'on imagine nous d'un point de vue visuel. Donc est-ce que c'est très lumineux ou pas, etc. Ça permet de projeter un peu le client au mieux parce que c'est ce que tu vois. Si je te dis maintenant, si je te dis bah quelqu'un se lève et part de la chambre, toi tu vas imaginer une chambre toute, je sais pas, d'enfant sombre. Moi je vais imaginer une chambre de très luxueuse, blindée de lumière. Donc ça permet vraiment de voilà, mettre un peu le paramètre. Ouais, exactement, c'est ça. Donc une fois qu'on s'est accordé sur la partie scénaristique en adéquation avec le budget, on dépasse jamais le budget qu'on nous donne, donc il n'y a pas de galère de se dire attends le budget machin etc. On est raccord là-dessus. On le devise quand même pour pouvoir expliquer exactement quoi coûte combien, parce que parfois on peut dire bah regarde là, si tu rajoutes un acteur ça va te coûter tant, ou si tu l'enlèves ça peut te permettre d'économiser tant. Donc ça permet d'avoir un peu la main mise à nos clients sur leur devis. Ensuite on s'accorde là-dessus et on fait le rétro-planning de la partie production, donc ce qui est la partie tournage. Donc on va se dire qu'on cale une date, on vient tourner, on demande à ce que nos clients soient présents pour pouvoir confirmer, valider les plans qu'on fait, et parce que c'est toujours un moment sympa pour nos clients de venir sur un tournage, hein. Ça sort de leur quotidien.
J'avoue.
Et ça, tu vois, c'est un paramètre moi sur lequel j'avais vraiment envie qu'on travaille, c'est qu'un client paye pour avoir une vidéo, pour avoir voilà les retours sur investissement de la vidéo, mais aussi parce que bah le jour où il passe un moment en tournage, c'est un moment qui change totalement de son quotidien. Et c'est un gros kiff, et ça pour moi ça a la vraie valeur, tu vois. C'est pas, tu viens pas juste pour le rendu, tu viens aussi pour le moment à passer. Je pense que c'est là-dessus aussi qu'on fait beaucoup la différence, c'est qu'on a on a vraiment une équipe très talentueuse et passionnée, et c'est pas juste, tu vois, en mode bullshit. Autant sur un secteur créatif, c'est vraiment un paramètre qui est important, et quand t'es passionné ça se ressent, et les jours de tournage bah t'es bien, tu kiffes et tu fais kiffer ton client. Et franchement, quand ça se passe bien le jour du tournage, en général ça se passe très bien aussi en post-production, donc sur la partie montage. Et quand un client est content sur toute la chaîne de valeur production de la vidéo, donc avant, pendant, après, bah c'est un client qui va te recommander, qui va reconsommer, qui va diffuser comme à droite à gauche. Et c'est ce qui marche bien. Et désolé, je me suis un petit peu détouré de la question, mais donc une fois que tu tournes, donc tu valides les plans. Ensuite, on passe à la partie post-production, donc toute la partie montage. Et donc là, on fait ce qu'on appelle un BAB, ça s'appelle un bout à bout, où on va sélectionner en fait les rushs, donc les plans qu'on estime être les mieux. On les sélectionne, on les met bout à bout, et on envoie ça au client pour déjà confirmer et valider un petit peu l'articulation du scénario. Donc on a potentiellement des allers-retours là-dessus. Et puis une fois qu'on s'est accordé sur le bout à bout, on va faire une V1, donc la version 1, qui est vraiment celle qu'on travaille avec de la musique, de l'étalonnage. Donc l'étalonnage, c'est travailler la couleur de la vidéo, le dynamiser, mettre du motion design ou pas, etc. Et puis ensuite, on peut, en fonction du budget, avoir des allers-retours jusqu'à la version finale, qui est c'est la vidéo prête à diffuser.
Sacré boulot.
Oui.
et surtout avec toute une équipe, c'est vrai qu'on se dit qu'on suspecte pas, mais ça prend, même quand on est amateur dans son coin avec son iPhone et qu'on veut faire une vidéo de 10 minutes, ça peut prendre une journée, deux journées, voire trois journées d'éditer son bout de contenu. C'est assez impressionnant.
Clairement.
Je vois que le temps passe, je vais te laisser retourner vaquer à tes occupations. Peut-être une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui auraient envie de se lancer dans la vidéo, qui n'y connaissent rien, mais qui ont envie de se former un petit peu et de peut-être de se confronter à ce format?
Ouais, clairement. Bah, du coup, déjà, il y a énormément de contenu gratuit sur lequel tu peux monter en compétence à 200% sur Internet, donc pour commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne concrètement la vidéo. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment, parce qu'on est dans un espèce d'océan rouge plein de concurrents sur secteur, donc il faut vraiment réussir à faire la différence par un paramètre. Donc est-ce que c'est la touche que tu apportes d'un point de vue rendu, est-ce que c'est le prix, est-ce que voilà, c'est toutes les questions que tu te poses sur n'importe quel secteur, mais c'est vraiment important de se poser cette question un peu en amont avant de prendre de la direction en question. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de ça, mais on lance une formation très orientée, alors pour le coup B2B, donc côté entreprise, pour pouvoir justement responsabiliser les personnes en interne pour faire du contenu. Quand tu as des sujets un peu de récurrence, de volume, bah passer par une agence, ça peut vite coûter cher. Donc on a une partie formation qui permet de responsabiliser en interne, encore une fois, pour pouvoir faire certains types de contenu. Et donc l'autre conseil, bah, donc, c'est C'est bien regarder ce qui se fait. Et la tagline qu'on avait chez Com et qui est encore là, c'est s'inspirer et faire mieux. Donc, c'est vraiment regarder ce qui se fait, se bouffer du contenu, regarder ce qui marche moins. Et c'est vraiment en s'inspirant de ce qui se fait très bien qu'on arrive à faire encore mieux. Donc, je pense qu'il y a un vrai, vrai enjeu de bench quotidien de ce qui se fait, ce qui fonctionne. Et franchement, je recommande à 200% les gens qui ont envie de s'y mettre, de s'y mettre, parce que tu peux commencer à le faire quand t'es encore en poste à droite à gauche, parce que ça peut être vite apparenté à du loisir, parce que c'est un vrai kiff. Tu vois, moi, je comprenais rien techniquement, et au final, t'as vraiment un sujet très cool. Et puis, écoutez, et en discuter avec des gens qui en font déjà depuis un moment, parce que y a rien de mieux. Et tu vois, moi, je continue, et Flo aussi, mon associé, à apprendre de dingue avec des gens qui explosent le game de la vidéo, qui font différemment certaines choses. Et donc, comme sur tout secteur d'activité, mais discuter avec des gens qui maîtrisent bien leur sujet pour trouver sa patte par la suite. Mais l'idée, c'est pas de faire des copycats de ce que se fait déjà, mais s'inspirer, ça te permet d'être encore plus à l'aise avec le fait d'aller chercher toi ta vraie patte. Donc voilà, mais franchement, je le recommande à tous celles qui souhaitent s'y mettre, parce que c'est une dinguerie, ce secteur, vraiment.
Tu donnes envie là, je suis presque convaincue.
Allez, go, viens chez Co.
Ok, trop bien. Bah, félicitations pour cette formation. Merci beaucoup d'être venu répondre à toutes mes questions. Et ça donne vraiment envie et on sent que tu es passionnée, mais vraiment. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite.
Merci Noémie. Bye bye, bonne journée.
Salut. Alors, est-ce que vous aussi vous avez trouvé l'énergie d'Harold contagieuse ? Que vous vous soyez déjà essayé à la vidéo ou non, son témoignage est bourré de bons conseils et d'idées pour se lancer. J'espère qu'elles vous seront utiles. Pour ma part, je sors de cette interview avec plusieurs bonnes pratiques. Attention à choisir un format vidéo qui ressemble à votre univers de marque et à ne pas abuser de certains codes, comme l'humour, si vous n'êtes pas à l'aise en face d'une caméra. La vidéo est un format qui est complémentaire avec l'écrit, l'audio, etc. L'important, c'est de définir son objectif et ensuite seulement de se demander si la vidéo est pertinente pour l'atteindre. L'humour est un levier redoutable de viralité. Derrière une vidéo de quelques minutes, il y a des quantités de travail. Brief, moodboard, script, prise de vue, sélection des rushs, post-production. Alors attention à vous lancer seulement si la vidéo est pertinente pour votre projet. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt dans The Storyline et merci d'avoir écouté cet épisode.